car la compassion de Dieu est immense. Le salut est obtenu par la foi de Dieu en l'homme, et non par les œuvres qui ne sont qu'une conséquence de la foi. Tel est aussi le principe protestant fondamental, sola fide, sola gratia, la foi seule, par la seule grâce de Dieu. Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. Dieu, le Père, nous aime tellement qu'il nous a rendus légitimes. Nous sommes ses enfants. Son amour précède notre amour. Son pardon précède nos repentances. Sa miséricorde précède nos plaintes et nos cris. Par le Christ, le Père nous donne la vie. Il nous donne, sans condition et gratuitement, la lumière, l'espérance, l'amour de vivre, l'amour de la vérité, l'amour de la conscience. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. C'est une justice qui sauve, qui nous délivre, qui nous libère. Il nous sauve de l'oubli, de la mort, de la souffrance, de la peur. Nous ne serons plus sous la menace du plan fatal de la mort. Le Dieu miséricordieux nous donne, sans le mériter, la vie éternelle, la joie éternelle, la réconciliation éternelle. Et comment accueillir le pardon de Dieu sans chercher à comptabiliser les bonnes ou les mauvaises actions? Le Christ n'est pas un juge implacable, comme le dieu égyptien Osiris, qui jugeait les morts par leurs œuvres, par leur mérite. Le Dieu de l'Évangile ne récompense pas. Il sauve sans exclure, grâce à la force de la foi, de sa foi. Le miracle de la foi qui justifie nos vies en espérance. Le salut ne se mérite pas. Il se vit déjà dans l'assurance d'une promesse donnée au plus profond de nos cœurs. Il est possible de découvrir et de reconnaître Dieu comme un Père bienveillant, protecteur et compréhensif, et non comme un Dieu, comme un juge rigide qui menace, réprimande, impose et dicte ses dogmes, ses décrets et ordonnances, remplis de condamnations, de préjugés et de colères imprévisibles. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la mythologie grecque ou romaine, aux humeurs changeantes, lunatiques, instables et déconcertantes. Le Père du Christ est prévenant, un Père accueillant, patient, encourageant, qui motive, valorise et enthousiasme ses enfants, consolés et soutenus. Dieu le Père est notre Père idéal, car il est le Père du Christ, un Père vivant, éternel et véritable, qui va au-devant de nos inquiétudes, Tel est encore le sens de la justification par la foi. En nous donnant justice, il nous soutient, nous console, nous éclaire, nous protège. Il accepte et supporte nos erreurs, nos hésitations et nos doutes. Un Père céleste qui sait attendre, entendre, écouter, observer et accompagner. Il cherche à nous aider, à nous trouver des solutions et des perspectives. Avec le Seigneur, l'impasse n'existe plus. Le salut est là. Pour nous rassurer, pour nous réconforter, la paix et la grâce vont ensemble. En mettant notre confiance en Dieu, nous recevons le cadeau de la paix, de la vraie paix, une paix d'amour, une paix de concorde, une paix de l'unité retrouvée entre les hommes, entre les nations, entre les continents. D'une paix pour la vie, au service de la joie créatrice, de la liberté de penser, de parler, de la liberté de proclamer, de l'entente fraternelle entre tous, en dépassant nos différences, nos divergences, nos tensions. Quand nous reconnaissons tout ce que Dieu nous donne, quand nous reconnaissons la bonté et la beauté du Seigneur, quand nous reconnaissons la douceur et la tendresse de Jésus, sans que nous le méritions, alors on éprouve une grande paix intérieure, un grand soulagement, une merveilleuse délivrance. Notre espérance repose sur la conviction de la fidélité éternelle de Dieu à notre égard. Dieu ne cessera jamais d'aimer tous ses enfants. Il ne nous abandonnera jamais, malgré sa discrétion, sa pudeur, sa réserve, sa retenue, son silence et son recul respectueux. Dieu est discret parce qu'il nous respecte. Il nous invite à grandir, à nous améliorer, à nous perfectionner, sans la notion de récompense hiérarchisée. Dieu nous donnera le bonheur éternel par sa justice divine irrationnelle, hors de toute logique humaine. Nous sommes tous destinés à recevoir les rayons de la gloire de Dieu. Dieu veut partager avec nous sa gloire, sa lumière, son éternité, sa victoire sur la mort. Jésus, devenu Christ, a obtenu le pardon des péchés. C'est ainsi que les humains peuvent être rendus justes devant le Seigneur et réconciliés avec lui malgré les faiblesses, les erreurs, les échecs. L'amour du Christ est plus fort que le péché et la mort. Luther disait: Satan est réellement homicide. Mettons-nous en état d'écoute et de disponibilité pour recevoir la foi de Dieu, l'accueillir comme un don et une promesse. Cette promesse, d'alliance éternelle et porteuse de sens. Cheminer vers le Seigneur donne du sens à sa vie. Le don de Dieu est un don de sens. Je vis pour l'amour et l'amour régénère ma vie. Ce salut donné, sans condition, signifie qu'il m'accompagne, même quand je ne l'écoute plus parfois. Dieu me précède, me guide, me regarde et pleure souvent quand je m'enferme, m'isole et refuse la vie. Je suis si souvent indigne de le recevoir, mais il revient sans cesse avec des intentions nobles, généreuses et pures. Mon impureté ne l'empêche pas de revenir encore et encore. Malgré nos détresses, réjouissons-nous d'avoir la foi. Sans la foi, je ne suis rien. Sans l'espérance, tout semble absurde. La foi est miraculeusement raisonnable, car je sais pourquoi je vis. Je comprends l'amour. Je comprends l'avenir, le devenir en lumière de l'homme sauvé, pardonné, purifié, qui accédera à la sagesse et à la connaissance, la vraie connaissance, qui est la connaissance de Dieu. Par l'Esprit Saint qu'il nous a donné, notre foi s'affirme comme une conviction intime qui encourage à agir en conscience, appuyée sur le seul secours de Dieu. Mais cette conviction spirituelle n'a pas à dériver dans le fanatisme, dans l'intégrisme religieux et dans le fatalisme. L'assurance de notre foi ne doit pas se transformer en sectarisme, intolérance et élitisme. Le Dieu aimant et pardonnant de l'Évangile n'a jamais demandé de transformer l'amour en haine, l'accueil en rejet, l'écoute en indifférence. Le don de foi est une énergie d'éveil, de réveil, de vigilance, d'attention et de rencontre, d'humanisation. Le salut gratuit permet un décentrage par rapport à soi, moins d'angoisse, plus d'angoisse, moins d'incertitude, moins d'appréhension. Nous sommes déjà sauvés. Avant même nos égarements d'une vie difficile. Soulagé, le croyant est beaucoup plus disponible pour les autres. Le salut gratuit stimule le don de soi. Pour donner, il faut d'abord recevoir. Dieu nous aime tant qu'il nous a donné notre dignité, notre gloire potentielle par le salut accordé.
Et puis, je me permets de lire une partie d'une lettre qui m'a beaucoup touchée et que Irmela, je demande, je m'excuse auprès d'Irmela, mais j'ai envie de lire ce texte. Je pense à Irmela et Bertrand. Cher Jean Albert, on peut aussi les deux cours extraits de ce théologien catholique allemand, professeur à la faculté œcuménique de Tübingen, Hans Kuhn. C'est tout à fait ce que vous voulez dire aussi. Et comme vous constatez, Hans Kuhn a un côté très intérieur. Voici sa première phrase. Selon le Nouveau Testament de Hans Kuhn, la foi ne signifie pas la considération intellectualiste de vérité comme vérité. La foi est plutôt l'abandon confiant de l'être humain entier à Dieu, qui, au lieu de le justifier par suite de ses œuvres pieuses et de son efficacité morale, le justifie par suite de sa confiance croyante. Et cela uniquement par la grâce divine. De sorte que celui qui peut mettre sa foi à l'épreuve en faisant des œuvres de charité. Et une dernière phrase de Hans Kuhn.
L'homme justifié, est quand même simultanément toujours de nouveau démasqué comme pécheur qui, ayant toujours besoin du pardon, ne se trouve que sur la voie vers l'achèvement. Sa deuxième phrase me touche personnellement. Je la trouve très forte. Tous les jours, nous nous réveillons comme pécheurs. Chaque jour, Dieu nous tend son pardon, comme le dira Irmela. À nous de le saisir et ressaisir chaque jour tout en nous trouvant ainsi sur la voie vers l'achèvement. Pour moi, il ne s'agit donc plus de regarder en arrière tout en ressassant et regrettant les fautes commises, mais de regarder en avant. Saisir le pardon chaque jour renouvelé. Essayer de faire mieux, pour moi. L'abandon confiant de l'être humain entier à Dieu, on ne peut pas mieux dire. Je vous permets de vous parler de mon père. Il était pasteur. Un homme d'une grande culture et en même temps un homme qui possédait un merveilleux sens d'humour, joie et gaieté, mais aussi une humilité émouvante. Il ne se considérait uniquement comme un instrument de Dieu. Ce n'était pas lui qui nous donnait, mais Dieu qui se servait de mon père pour nous transmettre la bonne nouvelle. Merci. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et pour témoigner sa reconnaissance, il nous justifie par la foi. Il nous protège par le salut éternel, parce que Dieu a besoin de nous, malgré nos fermetures, nos duretés. Ce n'est pas un Dieu sévère et intransigeant. Il ne fait qu'attendre nos changements, nos transformations, pour enfin recevoir de lui le plus beau des cadeaux, l'éternité par la purification de son âme. Recevoir son amour indique que nous agirons aussi par et pour l'amour. Les pensées, les paroles et les actes sont motivés par la dynamique de l'amour et non par un intérêt calculateur d'une bonne récompense. Le don de Dieu suppose que l'on agira aussi par le don de soi, le salut accordé par la grâce n'empêche pas l'appel de Dieu, bien au contraire. Le salut gratuit favorise la réception de l'appel de Dieu. Le salut contribue à la disponibilité de sa mission sur terre. Le salut sera le moteur de notre ministère auprès des hommes et des femmes sur toute la terre. L'assurance de notre salut nourrira le pourquoi de notre mandat. Libéré et pardonné, on peut dorénavant se mettre au service de son prochain. Tel est le lien entre le salut et la réponse à l'appel. Délivré, le chrétien n'a rien à prouver, ni à ses yeux, ni à ceux des autres. La question fondamentale est et sera: comment manifester ma reconnaissance auprès de Dieu, et non comment m'humilier, me racheter, m'expier, souffrir ou me punir. La repentance n'a pas à être un outil du mérite, mais c'est un moyen de gagner. Elle n'a pas à devenir un moyen de gagner les faveurs de Dieu, mais un exercice de prise de conscience. C'est l'examen, c'est l'acte de l'examen de conscience, un temps de bilan et de regard intérieur sur soi-même. Ma repentance exprime ma volonté de changer en accord avec les recommandations du Seigneur. Une prise en compte de ses erreurs, de ses échecs, pour se rectifier, pour s'améliorer. La repentance n'a pas à devenir une tactique psychologique pour négocier et acheter moralement sa grâce. Le chrétien fait le bien et pratique la vertu, mais parce que c'est juste, tout simplement. Le chrétien donne, accompagne et témoigne par amour et non pour un quelconque intérêt. Le désintéressement restera toujours le principe fondateur de l'action chrétienne. On agit, on s'engage pour la gloire du Christ et non pour sa propre gloire. Le chrétien n'a pas à gagner ou à conquérir sa gloire auprès de Dieu. Dieu nous a tout donné, la vie, la foi, la conscience. Nous sommes déjà en gloire, mais une gloire spirituelle et non humaine de la surmédiatisation. Nous n'avons pas à rechercher la gloire, nous l'avons déjà au cœur de notre âme, au cœur de nos espérances. La gloire est l'espérance de vivre avec désir, joie et émerveillement. La gloire se révèle par la joie de vivre, d'aimer et de donner. Telle est la substance même du salut déjà donné. Vivre pour créer, pour partager, pour embellir le monde. Voilà les racines de la gloire du salut. La volonté de vivre indique déjà que nous sommes sauvés. La puissance de l'Esprit sur la matière, nourrie par l'Esprit Saint, donne la ferveur et l'audace de témoigner, d'expliquer, de comprendre. Mais cette gloire en nous doit se réveiller par la force de la foi. L'Évangile est une très bonne nouvelle car il nous libère de nos aliénations, de nos hontes, de nos regrets. Nous n'avons pas à faire le bien pour quémander l'amour du Seigneur, mais parce que nous l'aimons et qu'il nous aime. Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Nos œuvres, nos actions, nos engagements seront toujours désintéressés. Ils ne seront jamais l'objet d'une stratégie, mais d'une reconnaissance permanente tout au long de notre vie. Je n'ai pas à me prévaloir de cette foi. Je vis la gloire de la foi, mais je ne m'en glorifie pas pour nourrir mon ego, mon orgueil spirituel. La foi est un don de Dieu. Je l'en remercie sans cesse. La foi est une réponse à l'appel de Dieu par la force de son salut qui a vaincu la mort. Recevoir la grâce exprime la victoire de la vie, la victoire de la lumière sur les ténèbres. La grâce est cet état sublime qui exprime et dévoile le sens de la vie. La grâce signifie que le sens de la vie l'emportera toujours sur le non-sens de la mort, sur l'absurdité de la mort. La manifestation de la grâce indique que le nihilisme est un leurre, une illusion. La grâce nous délivre de la tentation de la destruction, donc de la violence. Nous sommes incapables de nous détacher par nous-mêmes de la fascination, de la tristesse, du désespoir, de la mort et de la destruction. Nous sommes sauvés, c'est-à-dire arrachés et soustraits des ténèbres de la mort par la puissance rédemptrice de la grâce. En vérité, le véritable chercheur, c'est Dieu qui sans cesse essaye d'éveiller notre conscience. Il suit dans sa quête inlassable l'homme enfermé, emmuré, sourd et aveugle. Le véritable inaccessible, c'est l'homme qui se dérobe à l'appel de Dieu. Dieu seul sauve. La foi n'est pas une œuvre personnelle qui ouvrirait les portes de la grâce. La foi, certes, est un merveilleux cadeau spirituel qui nous met en mouvement, en cheminement, mais elle n'est pas la clé mystérieuse de la foi, de la grâce. La foi est le signe extérieur de la grâce. Ce n'est pas la foi qui nous donne la grâce. C'est la foi qui indique que nous avons la grâce. Dieu nous aime tellement qu'au-delà de notre manque de foi, il nous donne malgré tout la grâce. C'est incroyable, mais je vais encore me répéter. Nous sommes déjà sauvés. La foi est la manifestation du rayonnement de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, Jésus dit ceci. « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Pourtant, paradoxalement, Dieu ne nous force pas à croire. La puissance d'amour de Dieu se heurte parfois au rejet de l'homme. L'homme, par son refus, limite l'action de Dieu. Le pouvoir de Dieu n'est pas un pouvoir absolu qui contraint, impose et gouverne. Ce sont les hommes qui ont dénaturé la puissance d'amour de Dieu. Dieu donne son amour et l'homme l'accepte ou le rejette. Il pourrait s'imposer, Dieu, mais il laisse l'être humain choisir entre la vie et la mort. On ne peut obliger personne à aimer, à l'aimer. L'amour est un don par la liberté. Il n'y a pas d'amour sans liberté. La liberté existe parce que Dieu a choisi l'amour. C'est l'homme qui prend le terrible risque de refuser, de rejeter parfois avec véhémence la grâce de Dieu. Le Christ n'obligera personne à l'aimer. Il invite à l'amour, donc à la grâce, expression sublime de l'amour. L'amour de Dieu n'a plus de sens et de salut s'il n'y a pas de liberté. Certains individus pensent qu'on peut se sauver par soi-même et refuser la promesse d'éternité. Comme Calvin, nous croyons au témoignage intérieur par l'Esprit Saint. Acceptons d'être humblement guidés par le Seigneur. Dieu respectera le choix nihiliste de certains. Il n'obligera personne. S'il frappe à notre porte, nous n'avons seulement qu'à ouvrir. Et je n'appelle pas cela du mérite. S'il vient par le souffle de l'Esprit Saint dans nos cœurs et que nous l'accueillons, je n'appelle pas cela encore du mérite. S'il guide notre chemin,
et que nous consentons enfin à l'écouter, je n'appelle pas encore et encore cela du mérite, mais la beauté d'une rencontre, le renouvellement d'une alliance. Cette alliance est l'œuvre de Dieu et non point celui des hommes. Dieu a cherché et cherche à s'allier avec nous avant que nous le demandions. Il nous arrache à la mort spirituelle et il le fait gratuitement, avec compassion. Nous n'avons qu'à ouvrir la porte et les fenêtres de notre maison intérieure pour laisser entrer la lumière du Seigneur. Nous n'avons que cela à faire. Dieu ne nous obligera pas à ouvrir notre fenêtre, car il respecte notre liberté. Ce n'est pas l'amour qui est au service de la liberté, mais c'est la liberté qui est au service de l'amour. En Christ, le pardon dépasse la condamnation. La grande espérance du salut n'est pas un petit commerce personnel entre Dieu et mon âme. Comme le dit, le répond la bénédiction de Dieu, il nous a tout donné. Tout nous vient de ses mains, et la vie, et la joie, et le pain, et le vin. Et comme nous le chantons, encore bien avant la bénédiction, le répond, pardon de Dieu, notre Dieu est délivrance, il se lève, il nous sauve. Luther disait, je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie que la justice que Dieu donne. Il disait encore, l'homme justifié et pécheur simule justus et peccator doit s'en remettre à Dieu dans la foi. La grâce de nos vies est l'attente du temps libérateur de Dieu. Il nous offre le destin de revivre par la beauté glorieuse d'un salut messianique. Par la puissance de la souveraineté de son amour, par la sagesse de la souveraineté du don d'amour pour l'éternité, par le triomphe infini du salut universel. Amen.